France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
Aujourd'hui,
Edith Kanachizi.
Bonsoir à tous. Le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Edith Kanachizi, qui vient de se voir décerner le prix du président de la République de l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de son œuvre. Violoniste de formation, disciple d'Ivo Malek au conservatoire, profondément marqué par sa rencontre avec Maurice Ohana, à qui elle consacra un livre écrit à quatre mains avec François Porcil. Edith Kanachizi est aujourd'hui à la tête d'un catalogue important où se distingue notamment de nombreuses partitions pour orchestre et aussi de somptueuses pièces vocales. Avec elle, ce soir, nous allons voyager en suivant l'itinéraire de ses œuvres les plus récentes, de Caen à la Chaise-Dieu, en passant par la Maison de la Radio et Notre-Dame de Paris. Une heure avec Edith Kanachizi, c'est notre plaisir du soir sur France Musique.
Thank you.
L'Invisible, une pièce pour 12 voix de femmes et trompettes d'Edith Kanachisi par le trompettiste David Guerrier et le chœur Spirito, chœur Britton, dirigé par Nicole Corti. C'était en août dernier dans le cadre du festival de la Chaise Dieu. Bonsoir Edith Kanachisi.
Bonsoir Arnaud Merlin.
On vient d'entendre l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire l'invisible? C'est mieux que l'inaudible pour la musique.
Alors c'est moi qui ai donné ce titre à cette pièce, qui est sur un texte de Florence Delay, qui est donc ma consoeur à l'Académie française, puisque je suis à l'Académie des Beaux-Arts. Et elle a fait, à la demande de Nicole Corti, pour célébrer le 30e anniversaire du chœur Britten, un texte qui a pour thème... Enfin, disons un petit peu ce passage entre ce passage vers l'au-delà. Et moi, j'ai choisi le dernier texte qui s'appelle « Revenant ». Et c'est l'histoire de quelqu'un qui est mort et qui, 3 jours après, sort de sa tombe et rencontre un petit peu tous les gens qu'il a connus, bien évidemment qu'ils ne le reconnaissent pas, sauf l'âne, qui est le seul à le reconnaître. Et finalement, à la fin, il finit par partir.
Pourquoi la trompette? C'est un rapport avec le jugement dernier ou il y avait un soliste invité?
Non, pas du tout. C'est parce que Nicole souhaitait qu'il y ait des pièces avec voix et instruments. Il y avait donc David Guerrier qui joue en même temps du cor et de la trompette.
Magnifique musicien.
Et que pour moi, l'alliage des voix et de la trompette est quelque chose de formidable. D'abord parce que c'est la même tessiture. Et en plus de ça, ce sont deux timbres vraiment qui se complètent formidablement.
Si on vous reçoit ce soir, entre autres, Edith Kanachisi, c'est parce que vous venez de recevoir le Grand Prix du Président de la République. C'est un prix prestigieux qui est décerné depuis une 60aine d'années maintenant par l'Académie Charles Cros. C'est donc sous le patronage du Président de la République. Alors vous avez eu un très beau vase de Sèvres,
tout
j'ai vu
fait.
Ça. Vous l'avez mis sur votre cheminée.
Exactement. Enfin, pas tout à fait sur ma cheminée, non. Mais il est en bonne place.
Vous l'avez chez vous, vous ne l'avez pas cassé en rentrant
chez
vous,
pas
parce
cassé.
Que c'est quand même,
non,
c'est quand même fragile.
C'est un très beau vase.
Alors l'Académie Charles Cros, en fait, vous avez déjà décerné cette récompense l'an passé, mais la cérémonie de proclamation du palmarès n'avait pu avoir lieu à cause des événements de novembre à Paris. Et du coup, entre-temps, est paru un autre disque. Alors,
oui.
En fait, on vous l'a décerné pour une double actualité discographique et pour l'ensemble de votre carrière.
Exactement. Donc, fin 2015 est paru ce disque de pièces de violon solo par Diego Tosi, également au label Solstice, où j'avais eu un disque précédent, Over the Sea.
Dont on avait parlé dans cette émission, d'ailleurs.
Voilà. Et voilà. Donc, c'était un disque qui est effectivement paru en janvier 2015.
Le label Solstice, qui se trouve d'ailleurs pas très très loin de Narbonne, je crois, et Diego Tosi est de la région. Donc,
exactement.
Il y a aussi une sorte
exactement.
De famille musicale.
Oui, c'est une famille. Oui, ça fait. Il a enregistré plusieurs disques pour ce label Solstice. Et Yvette Carbou, qui est donc la directrice du label, l'apprécie énormément.
Diego Tosi, qui est aussi soliste à l'ensemble intercontemporain depuis quelques années. Alors, il a enregistré une de vos pièces qu'on va écouter, qui s'intitule « En mille éclats ». En mille éclats, ça vient d'un haïku.
Oui, c'est un haïku. C'est un haïku de Ueda Chouchou. Fût-ce en mille éclats, elle est toujours là, la lune dans l'eau. Donc, c'est une pièce qui fait allusion à deux aspects contradictoires, comme j'aime beaucoup justement dans certaines de mes pièces user un petit peu de ces deux éléments. Donc c'est l'élément de la permanence et de la, comment on peut appeler ça, de la dispersion, de l'instabilité. Voilà, instabilité et permanence.
Effectivement, si on jette une pierre dans l'eau, la figure de la lune va revenir,
exactement.
Elle va se recomposer. Alors quand vous dites l'instabilité et la permanence, comment est-ce qu'on traduit ça en musique?
Ah ben ça c'est justement avec le violon, j'ai joué justement sur le continu et le discontinu, bien évidemment. Le discontinu étant l'image de l'instabilité.
Et ça veut dire que vous avez un cantus firmus, par exemple, et puis quelque chose de brisé sur le plan rythmique ou est-ce que
non,
c'est...
pas vraiment. J'ai alterné justement des figures discontinues et puis, par contre, des choses qui sont dans la continuité de l'archet.
Est-ce que vous avez travaillé avec Diego Tosi directement?
Non, parce que c'est une pièce en fait que j'ai faite avant qu'il l'enregistre, que j'ai faite pour un concert au Japon. C'était une création, c'est une commande qui m'a été faite par une association au Japon et qui a été créée par une violoniste là-bas. Et quand Diego a voulu faire ce disque, il m'a demandé si j'avais une nouvelle pièce. Et là, je lui ai dit, ben oui, il y a cette pièce-là et il l'a enregistrée très très bien, remarquablement.
Thank you.
en mille éclats d'Edith Cadacisi par le violoniste Diego Tosi. C'est paru sous le label Solstice il y a à peu près un an. Edith Cadacisi, je vous voyais jubiler à l'écoute de cette interprétation.
Oui, parce que Diego Tosi est vraiment un interprète absolument formidable. Il n'y a vraiment pas... Tout est clair, tout est exact.
Et vous êtes violoniste.
Et je suis violoniste. Et donc, je sais ce que j'ai écrit, puisque je teste souvent au fur et à mesure que j'écris, bien évidemment en ne pouvant pas le jouer, mais en m'assurant que ce soit bien.
Et vous continuez à pratiquer les instruments à cordes. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs pièces, oui, non seulement pour le violon, mais aussi des concertos, l'alto, pour le violoncelle.
Bien sûr, oui. Oui, ça pour les cordes, ça c'est une chose dans laquelle je suis tombée dedans, comme on dit, quand j'étais vraiment toute petite, parce que j'ai commencé le violon très tôt, que mon grand-père faisait du quatuor à cordes, que ma tante était professeure de violon, etc. Donc c'est toute une histoire pour moi, les cordes, c'est vraiment, je suis née avec.
On vous doit déjà un concerto pour violon, 1995, je crois, à Exultet.
Oui.
Il y en aura un deuxième très bientôt, qui va être créé le 23 mars prochain.
23 mars.
Ici même,
oui.
À Radio France.
Avec
et c'est à la mémoire de quelqu'un qui nous est cher, Davy Early.
C'est à la mémoire de Davy Early, que je connaissais très bien et que j'aimais beaucoup. Et qui a eu, comme on sait, une fin tragique. Et
oui, il est mort dans un accident de la circulation.
De la circulation, oui. Et donc, depuis sa disparition, j'ai souhaité écrire un deuxième concerto de violon. Et puis, l'occasion s'est présentée par un des musiciens de l'Orchestre National qui m'a demandé si j'avais envie de leur créer quelque chose. J'ai dit oui, un concerto de violon. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est toujours, souvent d'ailleurs, comme ça que les choses se font.
Alors, quand on a déjà écrit un concerto pour violon, il y a une vingtaine d'années, j'imagine, oui, qu'on se renouvelle puisque du temps a,
oui,
passé.
Oui, mais... bien sûr. Non, ça n'a rien à voir.
Est-ce que vous avez une approche différente, justement, du principe concertant?
Tout à fait. Pas du principe concertant tellement, parce que le principe concertant, il est toujours un peu le même chez moi. C'est-à-dire que j'ai une vision du concerto qui est une sorte de... Enfin, l'orchestration est une sorte d'irisation ou d'irradiation de la partie soliste. Je ne conçois pas du tout le concerto comme étant d'abord, a priori, une prouesse technique. Je cherche beaucoup plus un mélange de timbres. Et là, dans ce concerto, j'ai cherché beaucoup à travailler sur les harmoniques et sur les résonances que peuvent justement lui apporter l'orchestre. Voilà, sur tout ce qui échappe un petit peu à ces 5-4 cordes et ces accords en quinte. Et justement, c'est par le biais des harmoniques qu'on peut y arriver. Et aussi par tous les modes de jeu, de l'archet, des subponticellos, de la main gauche, des jeux pas appuyés, des choses comme ça, qui libèrent d'autres harmoniques qui sont, alors celle-ci, absolument insaisissable et impalpable.
Ce sera créé par Fanny Clamageant.
Fanny Clamageant, oui, qui est une remarquable violoniste.
Avec l'Orchestre National, dirigé par John Storgard. Donc le 23 mars prochain. Et alors, vous faisiez allusion tout à l'heure au premier disque qui vous a valu le prix du président de la République de l'Académie Charles Cros l'année dernière, Over the Sea. On y trouvait une pièce pour trio à cordes avec accordéon et électronique. Et vous avez persévéré dans l'approche de l'électronique par la suite.
Oui, oui.
Toujours à Radio France, dans le cadre du Festival Présence, mais cette fois-ci avec des voix. Et des voix, oui, électroniques, c'est encore un autre mélange.
En fait, c'était ma première pièce avec électronique, c'était donc trio à cordes, puisqu'on est dans les cordes, que je connais donc très très bien, et accordéon électronique. Et j'ai eu envie ensuite de prolonger l'expérience avec, justement, avec des voix, enfin des instruments que je n'avais pas encore testés avec l'électronique, c'est-à-dire voix et vent. C'est-à-dire, il y a 7 instruments, donc flûte, clarinette, basse, trombone, percussion et violoncelle. Et seulement un violoncelle.
Et le texte, là, vous êtes allé rechercher assez loin, puisqu'il est question d'Hildegard von Mingen.
Oui. Alors, c'est une pièce qui s'appelle Visio, et le texte est issu des livres des visions d'Hildegard von Mingen. Hildegard von Mingen a écrit 3 livres de visions. Et c'est extraordinaire quand même parce qu'elle a écrit ça au XIIe siècle et qu'elle avait déjà eu donc la révélation ou l'intuition ou la vision de la Terre qui tournait, enfin des astres qui tournaient.
Ce qui vous donne des idées pour l'électronique, j'imagine.
Exactement. Alors qu'il a fallu quand même attendre le XVe siècle pour que l'Église accepte cette version de l'univers, cette explication de l'univers. Et elle l'avait vraiment déjà vu. Et donc j'ai traité l'électronique en fonction de cette vision de l'univers qui tourne, par quelque chose qui est extrêmement circulaire.
En spirale, en quelque sorte.
En spirale, non, mais vraiment circulaire. C'est-à-dire, on a fait un traitement électronique qui a étudié la spatialisation de façon à ce que le son tourne autour du public.
Je précise que cette pièce a déjà été diffusée sur France Musique, mais on peut aussi la retrouver sur un site qui s'appelle Nouveau Son, pour les amateurs de son en binaural. Hein, en mettant un casque, on peut avoir une
voilà,
écoute binaurale.
Voilà, et on a donc refait un mixage à cette occasion. Et c'est ce mixage qu'on va écouter maintenant.
On va en écouter les 8 premières minutes, à peu
alors
près.
Alors, voilà. Donc, j'avais partagé cette pièce. Enfin, j'avais fait une suite de 6 séquences. Le premier qu'on va entendre, c'est donc le prologue qui, en gros, dit « Et voici que je vis une très grande splendeur. » Et une voix qui venait du ciel qui me dit « Dit et écrit. » Ensuite, la deuxième séquence s'appelle « Imago ». Et c'est l'image, je contemplais alors dans le secret de Dieu, cette image de Dieu qui est resplendissante.
Thank you.
Le début de Visio d'Edith Canacisi par les solistes 21 et l'ensemble multilatéral sous la direction de Léo Varinsky avec la collaboration de Grégory Beller pour la réalisation informatique musicale de l'IRCAM. C'était le 9 février dernier, ici même à Radio France, dans le cadre du Festival Présence.
Le portrait contemporain sur France Musique, Arnaud Merlin.
Edith Canacisi, on écoutait tout à l'heure l'invisible. Ici, il était question de vision. Et puis, on va parler de d'inaccessible. Pour peindre l'inaccessible, c'est un peu des oxymores, vos titres, parfois, ou en tout cas, des mélanges de vos titres. Peindre l'inaccessible, c'est la manière dont Stahl parle lui-même de sa création dans ses lettres.
Mais disons que ce qui nous dépasse, c'est un thème qui m'intéresse depuis toujours. Et pour moi, la musique, enfin la création musicale est un des moyens de tendre à cerner cet inaccessible, enfin ce qui nous dépasse. Et Stahl particulièrement en parle de façon très très claire. Et une de ses dernières lettres avant son suicide, puisqu'il il disait il y a entre la réalité et moi un mur. À droite de ce mur, il n'y a rien. À gauche, il y a un peu de lumière, et pour atteindre cette lumière, il faut que je me débarrasse de ma carcasse d'homme. C'est pour atteindre la grande lumière, et je trouve ce texte absolument formidable. Donc, mon concerto d'alto, que j'ai fait en 2005, était déjà sur Nicolas de Stahl, sur une peinture de Nicolas de Stahl.
Et là, vous reprenez le texte des lettres dans une sorte de monologue, de mélodrame mélangé.
Alors,
à
ça,
ce que vous appelez un mélologue.
C'est ce que Claire Gibault appelle un mélologue, c'est-à-dire un récitant uniquement. Orchestre et récitant, enfin, ensemble et récitant. Et quand elle m'a proposé, elle m'a parlé de ce projet, c'est moi qui lui ai proposé les lettres de Nicolas de Staël qui venaient d'être éditées en 2014 et qui d'ailleurs va y avoir une réédition parce que depuis qu'elles sont parues, bien évidemment, d'autres personnes se sont manifestées en disant qu'ils avaient des lettres de Nicolas de Staël. Et c'est comme ça qu'on est parti sur ce projet-là.
Claire Gibault dirige le Paris Mozart Orchestra et la récitante, ce sera Nathalie Dessay.
Tout à fait. Oui.
Qui vient de faire, d'ailleurs, je crois, la même chose avec des musiques de Gracian Finzi.
Avec des musiques de Gracian Finzi sur Hopper.
Ce sera donc le 6 mars prochain à la Philharmonie de Paris à 14h30 et ce sera repris à la salle Rossini, toujours à Paris, le 2 avril. Et puis alors un petit peu plus tard, 10 jours après, au mois d'avril, à Budapest, on pourra assister à un concert du Chamber Orchestra de Jens Lapland sous la direction de John Storgard, que l'on retrouve ici. Alors là, c'est un projet intéressant avec des instruments moins pratiqués, si je puis dire.
Le cymbalum. Le cymbalum, ça c'est une œuvre Lanzowet qui date de 1999, donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est une commande qui m'a été passée par Musique Noël en Liberté. Et j'ai eu bien évidemment, je ne connaissais rien de cet instrument. Et c'est Gaston Sylvestre qui m'a initié à toutes les possibilités de cet instrument et c'était
percussionniste, longtemps membre du trio Le Cercle.
Et qui était passionné par le cymbalum et qui en avait plusieurs chez lui. Et donc j'ai été chez lui, il m'a montré toutes les baguettes, toutes les possibilités, etc. Et on a fait la création avec lui. Voilà. Et donc depuis, cette pièce n'a pas été reprise. Si, elle a été reprise une fois dans le cadre du festival Ars Musica. Et voilà, donc ça fait partie d'un projet. Enfin, c'est plus qu'un projet, puisqu'on.
Budapest, ce sera András Csalai.
C'est András Csalai qui, avec lequel je suis en contact. Et bon, il faut dire que les cymbalistes hongrois sont
réputés.
Sont très réputés. Voilà, tout à fait.
Et puis c'est un projet aussi que vous avez avec Florent Jodelet, un projet plus large.
Voilà, c'est un projet plus large autour justement du clavecin, de la percussion et du cymbalum, puisque j'ai, en partenariat avec la fondation Robert et Marcel Delacour, qui m'avait passé commande d'une pièce pour clavecin, percussion et cymbalum. Et donc on a eu l'idée de faire un disque autour de plusieurs pièces comme ça qui allient. Donc j'ai une pièce pour violon et vibraphone, cette pièce pour clavecin, percussion et cymbalum, cette pièce pour cordes et cymbalum et une dernière pièce pour percussion seule.
Et puis, vous avez créé, il y a quelques mois, avec Florent Jodelet déjà en soliste, un concerto pour percussion et orchestre qui s'intitule Seascape. On retrouve votre amour de la peinture dans ce titre aussi.
Alors, de la mer et de la peinture, oui.
Les deux.
C'est-à-dire que, donc on a une maison à l'île de Ré, et cette maison est couverte de marines. Elle est couverte de marines, enfin couverte, pas couverte, mais il y a énormément de marines. Et mon mari et moi-même aimons beaucoup les marines. Et alors, quand j'ai commencé cette pièce, je cherchais un titre et voilà, c'était Marine en anglais, bien sûr, Seascape.
On écoute un extrait de ce concerto enregistré à Caen avec l'orchestre de Caen, dirigé par Varand Maridirossian et bien sûr Florent Jodelet en soliste.
Thank you. Thank you.
La partie médiane est la fin de Seascape Concerto pour percussion. Ici, le soliste était Florent Jodelet. L'orchestre de Caen sous la direction de Van Martirossian, c'est une pièce, bien sûr, d'Edith Kenachizi, qui est notre invitée ce soir. Seascape, ça rappelle encore une fois la mer. Over the Sea, c'était le nom du disque précédent, Edith Kenachizi. C'est d'ailleurs un disque qui est sélectionné cette année dans le cadre du Grand Prix lycéen des compositeurs. Vous allez faire votre tour de France dans les lycées pour
Oui, on va commencer en janvier.
Vous l'avez déjà pratiqué, cet exercice, bien sûr, auprès des lycéens?
J'ai pratiqué il y a 2 ans pour une pièce d'orchestre qui s'appelait Times. Et c'est intéressant.
On est parfois confronté à des clichés qu'il faut déranger, démonter.
Non, mais c'est surtout que c'est difficile pour les lycéens de les faire s'exprimer sur quelque chose, des choses qu'ils ne connaissent pas. Et par contre, je me souviens d'une très bonne rencontre au lycée du 13e, là où par contre ils avaient eu un professeur qui avait très bien expliqué les pièces et c'était vraiment intéressant.
Et ce sera remis ici même d'ailleurs en mars prochain. Alors un petit peu plus loin dans le temps, en octobre, ce sera pour vous une création importante, une création d'une cantate pour l'anniversaire de la bataille du Chemin des Dames. Évidemment, ce sont les activités liées au centenaire de la Première Guerre mondiale. Là encore, c'est sur un livret puisque c'est une cantate avec la maîtrise de Lan et l'orchestre Les Siècles. Et il y aura aussi un soliste, le bariton Vincent Bouchot, que vous connaissez bien
oui,
déjà.
Oui, bien sûr, que je connais bien parce que j'ai travaillé avec lui dans le cadre des solistes 21 et notamment qui a chanté dans Visio.
Le livret est signé Marilyn Debiol. Alors, oui. Elle raconte l'histoire du Chemin des Dames ou c'est quelque chose de plus
narratif et plus poétique? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus poétique et de beaucoup plus onirique, justement. Parce que dans cette formation, j'ai voulu avoir des chœurs d'enfants. Un petit peu pour illustrer cette idée de borderline, finalement. Hein. Le Chemin des Dames, c'est vraiment quand on va sur place, c'est une ligne comme ça, avec... d'un côté, enfin, c'est vraiment une ligne de crête.
Que l'on visualise toujours aujourd'hui.
Tout à fait. Et donc, il y a cette idée de deux mondes qui s'affrontent, qui se répondent, qui évoquent encore cette idée de l'autre monde.
Ce sera créé le 14, 15 et 16 octobre prochain sous la direction, j'ai oublié de le préciser, d'Adrien Perruchon, donc avec Les Siècles et la maîtrise de Lan. On va se quitter, Edith Kenachizi, avec une œuvre tout à fait récente hein, qui a été créée par le Jeune Chœur de Paris en avril 2015, mais qui vient d'être reprise à Notre-Dame de Paris il y a quelques jours avec Henri Chalais qui dirigeait cette pièce. Ça s'appelle Nunc Dimittis.
Nunc Dimittis.
C'est un texte que vous pratiquez de longue date.
Alors, c'est pas moi qui ai proposé ce Nunc Dimittis. En fait, c'est Henri Chalais qui m'a proposé ça l'année dernière déjà. Ça avait été créé par le Jeune Chœur de Paris. C'était une commande du Jeune Chœur de Paris. Parce que, justement, il reprenait le Nunc Dimittis de Mendelssohn, je crois qu'il avait fait après.
Au même programme.
Et il se trouve que je connais très très bien cette prière depuis l'enfance et que je trouve que c'est une prière magnifique. prière du soir et prière qui est justement récitée dans l'office du soir dans les
complis,
dans les monastères au compli. Mmh.
Alors vous avez mêlé l'anglais et le latin, deux langues.
Oui, parce que je me suis servi du latin dans le recto tono, enfin l'utilisation du recto tono, la récitation recto tono, et par contre je me suis servi de l'anglais en mettant des solistes. Parce que je trouve que la langue anglaise, là, en l'occurrence, est vraiment très, 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 très belle.
On va se quitter avec cette pièce, Edith Canacisi. C'était donc le 29 novembre 2016 à Notre-Dame de Paris, votre Nunc Dimittis pour chœur, dirigé par Henri Chalais.
Grazie.
C'est avec cette pièce pour chœur, Nain Dimitis, donnée en concert tout récemment à Notre-Dame de Paris par la maîtrise de Notre-Dame et la maîtrise de Radio France, sous direction de Henri Chalet, que nous refermons ce portrait d'Edith Canadechizy. Merci beaucoup, Edith, d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Arnaud.
Merci à Flora Sternadel qui nous a aidé à préparer cette émission qui a été réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Jean-Richard Dufour. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour le dernier portrait contemporain de l'année. Ce sera en compagnie du compositeur Philippe Hurel. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Anne Montaran pour Al Labrévé. Bonsoir Anne.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.